bienvenue dans notre exploration du jour. Alors, on s'imagine souvent que le cinéma, c'est surtout une affaire de grande ville, hein, de projecteurs, de tapis rouges. Mais aujourd'hui, on change complètement de décor. On va plonger dans l'histoire finalement assez fascinante du 7e art au cœur d'un département plutôt rural, l'Aveyron. Et pour nous guider dans ce voyage, on a une source vraiment précieuse. C'est le bulletin numéro 84 du Cartoclub aveyronnais. Il faut absolument saluer ici le travail remarquable des auteurs, Guy Mazard pour la recherche, la maquette aussi, et puis Alain Ferral qui ont été les maîtres d'œuvre de ce dossier. C'est grâce à eux qu'on peut faire cette analyse, d'environ 15 minutes d'ailleurs.
Tout à fait. Et c'est passionnant parce que l'enjeu ici, c'est de comprendre comment cette invention, qui était à la fois une prouesse technique, mais aussi une vraie révolution culturelle, comment elle a trouvé sa place, comment elle s'est développée, et même parfois comment elle a pris des formes un peu inattendues justement dans un territoire comme l'Aveyron. Quels défis ça a posé, quelles particularités locales ont marqué son histoire. Notre mission, si on peut dire, c'est d'extraire un peu la substance de ce récit local qui est très riche en enseignements.
Alors on commence par le commencement et même un peu avant les fameux frères Lumière. Parce que l'idée de l'image qui bouge, ça date pas d'hier en fait. On pourrait parler de la lanterne magique dès le milieu du XVIIe siècle, attribuée souvent à Athanasius Kircher. Et puis, bien sûr, au XIXe, il y a eu plein d'inventions. Le phénakiscope de Joseph Plateau en 1833, le zoötrope de Horner en 1834, ces fameux jouets optiques, quoi, qui donnaient l'illusion du mouvement.
Exactement. Mais il y a une figure clé qu'on oublie parfois un peu dans l'ombre des Lumières, c'est Émile Reynaud. Un inventeur français vraiment visionnaire. Il faut se rendre compte que 3 ans avant la première séance publique du cinématographe Lumière, Reynaud, lui, il projetait déjà de vrais dessins animés sur un écran, et devant un public payant.
Ah oui, mais comment il faisait sans pellicule photo ?
C'est là qu'est tout son génie. Après avoir créé le praxinoscope en 1877, il a breveté son théâtre optique en 1889. C'était un appareil assez sophistiqué qui utilisait de longues bandes souples, perforées, et sur ces bandes, il dessinait et coloriait chaque image, à la main, une par une. Ces bandes, elles étaient beaucoup plus longues que les disques des jouets optiques, et ça permettait de raconter de vraies petites histoires animées. Et le succès a été considérable. Ces pantomimes lumineuses ont été projetées au musée Grévin à Paris, d'octobre 1892 à mars 1900. On parle de plus de 500 000 spectateurs.
Incroyable !
C'est énorme pour l'époque, et ça préfigure vraiment le spectacle de cinéma.
C'est fascinant, toutes ces étapes un peu méconnues. Alors pour bien comprendre la suite, rappelons peut-être la définition technique du cinéma, celle de Jean Vivier. C'est la restitution de mouvements qui ont été enregistrés photographiquement, projetés et qui fonctionnent grâce à la persistance rétinienne. Cette fameuse particularité de l'œil qui garde l'image une fraction de seconde, quoi. Et ça crée l'illusion du mouvement quand les images défilent vite. Bon, avec cette base technique posée, comment cette révolution arrive concrètement en Aveyron ?
Étonnamment vite. Le contexte, c'est bien sûr l'invention du cinématographe par les frères Lumière, breveté en février 1895. Cet appareil qui enregistre et projette avec le fameux film 35 mm perforé et la cadence de 16 images par seconde qui va devenir la norme du muet.
Mais l'Aveyron, eh bien, elle n'attend pas l'heure. Seulement 1 an et 3 mois après la première séance historique au Grand Café à Paris, hop, le cinéma débarque dans le département. On est en février 1897, d'abord à Rodez, et puis tout de suite après à Milou. Le courrier de l'Aveyron du 6 février 1897 l'annonce en grande pompe. Photographie vivante, projection animée et en couleur, grandeur naturelle. C'est un certain monsieur Miez qui est présenté comme un ancien opérateur des Lumières qui fait ses projections au théâtre de Rodez. Mais attention, avec un appareil concurrent, le cinématographe Joly. Il montre 14 scènes différentes.
C'est impressionnant cette rapidité pour une zone qu'on imagine peut-être plus isolée. Ça montre que l'attrait pour la nouveauté, c'était universel et que les réseaux de diffusion, même s'ils étaient naissants, fonctionnaient déjà bien. À Milo aussi, l'ambiance de ses débuts est décrite comme vraiment spéciale. Il y avait un musicien qui accompagnait au piano, c'était courant, pour couvrir le bruit du projecteur et créer une atmosphère. Le prix était modique, 30 centimes pour les places les plus simples, et l'impact a été immédiat, une vraie fascination collective pour cette distraction totalement nouvelle.
Ce succès rapide, ça pose vite la question des lieux, du matériel. comment l'Aveyron, qui est quand même un territoire majoritairement rural, s'équipe pour accueillir le cinéma sur la durée. On imagine que les solutions des grandes villes n'étaient pas forcément adaptées.
C'est exact. Et on voit justement émerger des solutions pensées pour ce contexte rural. Par exemple, Pathé lance en 1927 le Pathé rural. C'est un projecteur plus simple, conçu pour un usage pas forcément continu, et surtout il utilise un format de film réduit, le 17,5 mm, la moitié du 35 standard. Et l'avantage énorme, c'est qu'il était sur support ininflammable. C'était une question de sécurité absolument cruciale en dehors des salles équipées et surveillées. Plus tard, un autre appareil va devenir très populaire dans les petites salles de campagne, les patronages, c'est le projecteur Debris MB15 en format 16 mm.
D'accord. Et dans les villes principales, comme Rodez ou Millau, comment ça évolue ça?
Alors, prenons Rodez. Au début, on projette dans des lieux un peu polyvalents, comme la salle de conférence, Payous et Boisquis. Et puis, il y a Jean-Baptiste Chanoux, une figure importante, qui crée en 1922 le Family Ciné. Là, c'est une vraie salle dédiée, 550 fauteuils. Bon, l'écran, c'était juste un mur blanchi, mais quand même. Ce qui est intéressant, c'est que ce même Chanoux ouvre ensuite le Palace en 1932. Et il met en place une sorte de stratégie. Au Family, il passe les classiques français, et au Palace, les films américains, peut-être jugés plus populaires. C'est déjà une forme de segmentation du marché. Et l'évolution continue, elle culmine en 1961 avec l'Abbé Croze qui inaugure le club. Une salle moderne, prête pour le cinémascope, avec un écran de plus de 10 mètres. On voit bien toute la montée en gamme sur plusieurs décennies.
Oui, cette évolution à Rodez montre bien comment on passe d'une simple curiosité à une offre de loisirs vraiment structurée, même en province. Et à Millau, est-ce qu'on observe une dynamique un peu similaire?
Oui, Millau a aussi son histoire, qui a été documenté notamment par Pierre Costecalde. Il y a eu l'Éden, à l'époque du muet, puis les variétés, qui a fermé seulement en 1970. Et là, c'est une famille, les Camillac, qui a joué un rôle clé. Ils ont racheté le cinéma Payous pour en faire le Royal, et ensuite ils ont créé le Club et le Rex. D'ailleurs, ces salles ont fini par être regroupées sous un nom assez joli, les Lumières de la Ville.
Mais cette multiplication des salles, est-ce que ça veut dire que tous les Aveyronnais avaient facilement accès au cinéma?
Alors là, il faut nuancer. Il y a un recensement de 1926 appelé « Tout cinéma » qui nous dit, à cette date, l'Aveyron ne compte que 17 salles permanentes. C'est peu pour tout un département. Et d'ailleurs, malgré les efforts de Chanoux à Rodez, la ville était assez mal classée en termes de nombre de fauteuils par habitant par rapport à d'autres villes. Ça souligne bien que pendant longtemps, pour une grande partie de la population rurale, l'accès au cinéma dépendait encore beaucoup des cinémas ambulants ou d'initiatives très très locales.
Justement, parlons-en de ces initiatives locales. Il y en a une qui sort vraiment de l'ordinaire. C'est le cinéma paroissial de Cassagne-Bégognaise. Le bulletin qu'on explore, qui s'appuie sur les travaux d'Alain Bouzat et Jean-Pierre-Henri Azéma, le présente comme un cas d'école, une vraie exception aveyronnaise. Qu'est-ce qu'il rend si spécial, ce cinéma?
Ah mais c'est une histoire incroyable! Ça commence juste après la guerre, entre 1946 et 1947. L'idée vient de l'abbé Ernest de Witsch et d'un commerçant du village, André Fressinien. L'idée, c'est de créer un lieu de culture, de loisirs pour la paroisse. Mais le plus remarquable, c'est la construction. Ça se fait sur le terrain de l'ancien jardin du presbytère, et ce sont les paroissiens eux-mêmes qui font les travaux bénévolement. Le terrassement, la maçonnerie. On apprend même qu'une dizaine de prisonniers de guerre allemands qui étaient encore dans la région ont participé au chantier. La salle est inaugurée en grande pompe le 28 août 1948.
Une construction vraiment communautaire, donc. Impressionnant. Et le financement?
Et la programmation, dans ce contexte paroissial, elle ressemblait à quoi? Le financement est aussi original. C'est un emprunt sous forme d'obligations de 5000 francs de l'époque qui sont souscrites par les habitants eux-mêmes. Pour la programmation, évidemment, c'est très encadré par la centrale catholique du cinéma. Il y a des codes moraux très stricts. Films pour famille, pour adultes, ceux qui sont jugés à déconseiller ou pire, à proscrire par l'Église, ils sont tout simplement bannis de l'écran. Mais malgré tout cet élan collectif, le cinéma a du mal à être rentable. Dès 1949-1950, l'association qui gère la familiale constate le déficit. Il n'y a juste pas assez de spectateurs potentiels à Cassagne.
Ah mince !
Et c'est là que l'histoire prend un tournant complètement inattendu. En parallèle du cinéma, il y a une troupe de théâtre amateur animée par une sœur Jeanne Escorbiac, visiblement très dynamique. Cette troupe monte des séances récréatives théâtrales. Et là, succès phénoménal et constant, si bien que ce sont les bénéfices du théâtre qui vont permettre de combler les déficits du cinéma et de rembourser l'emprunt initial. La dette est totalement payée en mai 1958, grâce au théâtre.
C'est fou, cette synergie. Le théâtre qui sauve le cinéma, le tout porté par la paroisse et la communauté. Un vrai modèle économique, culturel et social avant l'heure, en quelque sorte. Mais cette belle aventure, elle a duré longtemps ?
Malheureusement, non. Le déclin finit par s'amorcer. Dès 1979, les responsables locaux pointent du doigt un coupable sûr. L'arrivée massive de la télévision dans les foyers. On dit qu'elle a tué le cinéma local. La salle de Cassagne finit par fermer ses portes en 1984. La dernière projection, c'était Fort Sagan. La raison officielle, c'est l'impossibilité de financer les travaux de mise aux normes de sécurité qui devenaient obligatoires. Quand on pense à l'investissement initial de 1947, 3 millions d'anciens francs, ce qui ferait à peu près 193 000 euros aujourd'hui, on mesure l'ampleur de l'effort de l'époque et la tristesse que cette fermeture a dû représenter.
Oui, c'est une histoire vraiment emblématique, mais l'Aveyron, ça n'a pas été qu'un lieu où on regardait des films. C'est aussi une terre qui a inspiré des cinéastes et vu naître des acteurs, non ?
Tout à fait. On pense tout de suite, bien sûr, à Georges Rouquier. Ses grands-parents étaient paysans à Goutrin. C'est là qu'il a tourné son chef-d'œuvre documentaire « Farbik » en 1946, en filmant sa propre famille au fil des saisons. Un film immense qui a reçu le Grand Prix du cinéma français. Et il est revenu 38 ans plus tard pour tourner la suite « Biquet phare ». Plus près de nous, il y a Claude Nouridani et Marie Pérennou, qui sont installés près de Salles-la-Source. Ils ont réalisé entièrement en Aveyron leur succès mondial Microcosmos, Le peuple de l'herbe, en 1996.
Puis il y a eu d'autres tournages marquants. Je pense à Malléville, 1981, ce film de science-fiction post-apocalyptique avec Céro et Dutronc. Il a été tourné en grande partie au château des Bourrines à Bertholène, ou la comédie musicale « Nous irons à Paris » en 1950, qui a utilisé les décors de Bozouls, Espalion, Estaing. Et bien sûr, on ne peut pas oublier le monument, la Grande Vadrouille, en 1966. Certaines scènes cultes ont été filmées dans le chaos rocheux de Montpellier-le-Vieux et près de Perléau. L'Aveyron, comme décor de cinéma, c'est une vraie réalité.
Et comme terreau d'acteurs aussi, il y a Juliette Maniel, née à Saint-Hippolyte, qui a quand même remporté l'Ours d'argent de la meilleure actrice à Berlin en 1960. C'est pas rien. Il y a Jean Gavin, de Saint-Rome de Cernon, qui a tourné dans près de 70 films, souvent aux côtés de Gabin, de Ventura, des grands noms.
Ah, et sans oublier l'histoire incroyable d'Adrien Caïla-Legrand. Né à Cassagne-Bégognès, l'anecdote est rapportée par Roger Lajoie-Mazin. Cet homme, c'était le sosie quasi officiel du général de Gaulle. Il l'a incarné dans des films aussi importants que L'Armée des Ombres de Melville ou Le Chacal de Zinnemann. Quand on y pense, c'est assez extraordinaire pour un enfant du pays.
Exactement. Et on peut ajouter Christian Thomas, né à Rodez. On le connaît pour son rôle d'inspecteur dans la série des Fantomas avec De Funès et Jean Marais. Et il y a une anecdote amusante dans le bulletin. Apparemment, c'était aussi lui qui se cachait sous le masque de Fantomas dans certaines scènes où le personnage apparaît masqué.
Génial. Pour vraiment saisir l'ambiance de l'époque, les souvenirs personnels qui sont partagés dans le bulletin sont précieux. Guy Mazars, par exemple, il raconte son expérience du cinéma d'étable à Saint-Cyprien-sur-Dourdou dans les années 40. Une projection très sommaire dans une grange et où, contexte oblige, les films étaient soumis au contrôle des autorités d'occupation allemande. Ça donne froid dans le dos.
Oui, et Alain Ferral, lui, il se souvient du cinéma de café à Mur de Barèze. Il décrit l'atmosphère enfumée typique de ces lieux à l'époque. Et il raconte qu'un jour, le projectionniste, peut-être un peu distrait ou débordé, avait interverti les bobines du film. Apparemment, une bonne partie du public, qui était sans doute plus là pour la convivialité que pour suivre l'histoire à la lettre, ne s'en est pas vraiment formalisé, mais a quand même exigé que la projection aille jusqu'au bout, histoire d'en avoir pour son argent. Ces détails sont savoureux. Ils donnent vraiment vie aux statistiques, aux faits bruts.
Ah oui, ces anecdotes sont géniales, ça donne vraiment chair à cette histoire, on imagine bien l'ambiance, ces moments un peu hors du temps. Alors, si on essaie de synthétiser un peu ce parcours dans l'histoire du cinéma véronais, qu'est-ce qui ressort le plus finalement? Pour moi, c'est d'abord cette capacité d'adaptation très rapide à une nouvelle technologie. Ensuite, c'est la force des initiatives locales, qu'elles soient commerciales, associatives ou même paroissiales, comme on l'a vu à Cassagne. C'est aussi l'histoire de lieux qui se transforment, des granges, salles modernes. Et puis, c'est l'image d'un territoire qui n'est pas juste un consommateur de films, mais aussi une source d'inspiration et un vivier de talents.
C'est tout à fait ça. Les points clés à retenir, ce serait l'arrivée très précoce du cinéma, dès 1897, ce qui défie un peu l'idée d'un retard systématique des zones rurales. Ensuite, l'importance cruciale des salles, sous toutes leurs formes, permanentes, ambulantes, improvisées, et cette évolution constante des équipements pour répondre aux contraintes locales, que ce soit la sécurité ou le coût. Le cas unique et vraiment exemplaire de Cassagnès-Bégogne, qui est un symbole fort d'un cinéma communautaire, paroissial. Et enfin, l'attractivité indéniable de l'Aveyron comme décor naturel pour des tournages très variés, et aussi comme terre d'origine ou d'accueil pour des acteurs et des réalisateurs. Et peut-être pour ouvrir un peu la réflexion au-delà de ce cas précis. On pourrait se demander si cette expérience du cinéma, telle qu'elle a été vécue en milieu rural, avec ses contraintes matérielles, ses modes de diffusion parfois un peu bricolés, ses initiatives communautaires très fortes comme à Cassagne, est-ce que ça n'a pas forgé un rapport au spectacle cinématographique différent de celui des habitants des grandes villes? Un rapport peut-être plus collectif.
Moins passif.
Et ça invite à se poser la question, combien d'autres histoires culturelles aussi riches, aussi spécifiques, dorment encore dans les archives locales, dans des territoires qu'on imagine, souvent à tort, comme étant restés un peu en marge des grands courants culturels?